France Culture.
Question du soir. Quentin l'a fait.
On vient de l'entendre, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu fait face à deux nouvelles motions de censure. La séquence du budget 2026 restera sans doute comme l'une des plus révélatrices de l'état politique du pays. Entre l'échec de la commission mixte paritaire, le recours à une loi spéciale, puis l'usage répété du 49-3, alors même que le Premier ministre avait dit qu'il ne serait pas utilisé, ce texte, le budget, a fini par être adopté sans qu'un accord parlementaire explicite ne se dégage. Cette situation n'est pas seulement un accident de calendrier ou une crise conjoncturelle, elle dit quelque chose de plus profond sur la manière dont les décisions collectives sont prises dans notre pays. Alors, quand le compromis devient impossible dans l'hémicycle, que reste-t-il de la délibération démocratique? Pourquoi un budget devient-il si difficile à adopter aujourd'hui? Et dans quel état se trouve par ailleurs notre démocratie sociale? Un invité ce soir, un économiste même, Gilles Berset. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, je le disais, professeur à la Neoma Business School. Vous avez publié le 21 janvier dernier avec Guy Groux et Richard Robert cet ouvrage intitulé « Sauver la démocratie sociale, du conflit au contrat ». C'est aux éditions Kalman Lévy. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
On prête à ce budget des attentions qu'il n'a pas. On lui attribue des choix qui n'y figurent pas. On le caricature, parfois, sans que, de toutes les évidences, il n'ait été lu, y compris, pardonnez-moi de vous le dire, par certains parlementaires. La vérité est pourtant simple, ce texte n'est pas le texte initial du gouvernement. C'est un texte issu du compromis, un texte travaillé, modifié, ajusté, parfois au prix de renoncement pour le gouvernement lui-même, pour tenir compte des discussions et des équilibres recherchés dans cet hémicycle. Et c'est précisément ce qui le rend aujourd'hui si inconfortable pour certains, parce qu'il n'est le texte de personne, ou plutôt parce qu'il est un peu le texte de tout le monde. Alors chacun critique. La gauche dira que c'est un budget de droite. La droite dira que c'est un budget de gauche, antienne, bien connue. Et pendant ce temps, plus personne ou presque ne veut l'endosser, plus personne ne veut en répondre, plus personne ne veut même dire clairement ce qu'il contient, ni même ce qu'il y a pourtant gagné pour ses convictions et ses électeurs.
Vous avez reconnu sa voix, Gilles Berset, évidemment, hein, le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il est dans une situation, on le comprend, il l'avoue d'ailleurs, hein, quasi intenable. Je m'adresse d'abord à l'économiste avant d'entrer dans le détail du budget et de son examen. On parle souvent de la façon dont l'instabilité politique est nocive pour l'économie de notre pays, pour l'économie réelle. À quel point cela est-il vrai? À quel point cela est-il documenté?
Alors, c'est relativement documenté, mais il y avait deux risques entre lesquels le Premier ministre devait choisir, les pouvoirs publics devaient choisir. Le risque de l'instabilité politique avec une sanction de marché qui pouvait être très chère. Très très chère. Et le risque de
C'est le marché, d'abord et avant tout, qui vous effraie. C'est la réaction du marché.
La réaction du marché qui pouvait nous effrayer. J'y reviendrai. Et puis, l'autre risque d'un budget qui soit insatisfaisant. Et insatisfaisant pour l'économiste que je suis, comme pour beaucoup d'observateurs attentifs des finances publiques, parce que c'est un budget sans réel contrôle des dépenses sociales, sans réelle modération des dépenses sociales, et qui finance en partie le non-contrôle, la non-modération des dépenses sociales par une augmentation des taxes. Or, l'augmentation des taxes, de l'imposition, dans le pays qui est déjà le champion de la taxation parmi les pays de l'OCDE, évidemment, ça a des effets néfastes sur des effets d'offres néfastes sur l'équilibre économique, et donc ça abaisse en quelque sorte notre niveau de produit intérieur brut par habitant.
Donc si je résume ce que vous dites, dans les deux cas, qu'il soit voté ou non, il y avait un effet nocif sur l'économie, l'instabilité politique d'un côté et les mauvaises décisions de l'autre.
Absolument. C'était perdant ou perdant. Où perdait-on le plus? Laquelle de ces deux situations fallait-il le plus éviter? Je dirais que la réponse a été apportée par les marchés dès que le 49-3 a été rejeté, dès qu'il n'y a pas eu censure, en quelque sorte. Eh bien, la prime de risque par rapport à l'Allemagne a baissé de 10 points de base. Immédiatement, la réaction des marchés a été de montrer qu'ils préféraient la stabilité politique, même au prix d'un budget insatisfaisant, sans réel contrôle des finances publiques, à l'instabilité politique et l'incertitude sur les mois sinon l'année qui vient.
Donc on n'a pas pris la meilleure décision, Gilles Berset, mais on a pris la moins mauvaise.
C'est exactement ça. Il n'y avait aucune des deux possibilités qui étaient fantastiques, emballantes, exaltantes. Aucune. Aucune des deux. Mais entre deux mauvaises situations, laquelle était la moins mauvaise? Manifestement, les marchés nous ont donné en tout cas une réponse. Il valait mieux la stabilité politique au prix d'un mauvais budget.
Comment est-ce que vous expliquez que le PLFSS, le budget de la Sécurité sociale, ait été adopté, qu'on ait réussi à l'Assemblée nationale à trouver une majorité, à dégager une majorité pour permettre son vote, que la question du budget soit là beaucoup plus difficile à concrétiser politiquement?
Parce que dans le budget, il y a une infinité de choses. Hein. Le PLFSS, par définition, est plus restreint, centré sur les questions sociales. Et déjà, le PLFSS contenait une mesure phare qui était demandée pour être approuvée, à savoir la suspension de la loi Borne sur les retraites. Cette suspension ayant été accordée, intégrée au PLFSS, je dirais pas que les choses étaient faciles. En tout cas, elles étaient un petit peu moins difficiles. Et le PLFSS, donc, a pu être adopté au prix néanmoins d'une augmentation des dépenses, d'une non-modération des dépenses, en particulier des dépenses santé. Il est hallucinant dans notre pays d'entendre parfois parler, et pour le PLFSS et pour le PLF, de budget d'austérité. Budget d'austérité, ça n'est en rien un budget d'austérité.
Alors pour tempérer les choses, on dit parfois rigueur.
Oui, mais ce ne sont en rien des budgets de rigueur, ni dans le domaine social, ni du côté de la loi de finances. Les dépenses continue à augmenter en réel, hein, y compris corrigé de l'inflation.
Je vais te donner quelques chiffres. Ce projet de budget, puisqu'il n'a pas encore été totalement voté, fixe les objectifs suivants. Un déficit de 5% du PIB en 2026 contre 5,4% attendu en 2025. La dette publique, au lieu de monter à 117,9% du PIB, devrait plutôt culminer à 118,2% fin 2026. La situation est grave, là, docteur ?
Évidemment. Évidemment qu'elle est grave. Évidemment, il va falloir se diriger, c'est d'ailleurs l'intention du gouvernement et des pouvoirs publics, vers un déficit de 3% pour réduire, en quelque sorte, la progression de notre dette, dont l'évolution dépendra aussi de celle des taux d'intérêt et de beaucoup d'autres facteurs. Mais c'est indispensable, outre d'ailleurs le respect de nos engagements européens, c'est indispensable pour la soutenabilité de nos dépenses publiques. Donc, voilà. Et puis, il y a quand même une dimension, en dehors des questions de soutenabilité, il y a quand même une dimension qu'il faut évoquer. L'augmentation de la dette. Qui est en grandement expliqué par la dynamique de beaucoup de dépenses, dont les dépenses de santé, dont les dépenses de retraite, dont etc., etc., etc. L'augmentation de la dette, c'est un cadeau qu'on lègue à nos enfants. C'est-à-dire
une charge, vous voulez dire?
Oui, un cadeau, c'était de l'humour, si je peux dire.
C'est-à-dire qu'on
leur lègue quelque chose de lourd à porter pour assurer nous notre niveau de vie, pour assurer, nous, un certain confort, eh bien, on le fait au prix d'un endettement accru avec lequel ils devront vivre, qu'ils devront rembourser, dont les charges d'intérêt seront importantes année après année. Voilà le cadeau qu'on leur transmet. Voilà, c'est quelque chose, c'est une considération, vous voyez, outre la question de soutenabilité qui évidemment est un peu triste.
On parle depuis le début de cette discussion, de cet échange de démocratie, mais de démocratie politique avant toute chose. Vous signez un livre avec Guy Grou et Richard Robert aux éditions Kalman-Lévy, créé par Raymond Aron, vous me le rappeliez, sur la démocratie sociale, sauver la démocratie sociale. Comment définit-on ce que c'est, cette démocratie sociale, justement, en miroir de la démocratie politique?
La démocratie sociale, c'est des rapports entre les partenaires sociaux qui aboutissent à la création, à la construction de normes. Ces normes, dans les entreprises, dans les branches, ou au niveau national, organisent la vie sociale des acteurs, leurs conditions d'existence, hein, dans les salaires, dans leurs conditions de travail, dans une quantité de choses très très importantes. C'est ça, la démocratie sociale. Vous voyez, c'est tout ce travail qui aboutit concrètement à la construction de normes aux différents échelons de la négociation collective nationale, branche, entreprise.
Je vous cite Gilles Berset, car vous êtes dur avec cette démocratie sociale française. Vous écrivez « La démocratie sociale en France mérite de grandir pour atteindre enfin l'âge adulte, la charge est lourde ». Alors expliquez-nous en quoi la démocratie sociale française est encore adolescente au moins, disons.
Disons que quand on compare la France aux autres pays qui nous entourent, et en particulier aux pays nordiques scandinaves, à l'Allemagne et aux Pays-Bas, on peut faire le constat d'une démocratie sociale qui est très peu efficiente. Très peu efficiente pour cette construction, pour cette élaboration de normes. Les partenaires sociaux, d'ailleurs, ne se saisissent pas des opportunités qui leur ont été ouvertes par les pouvoirs publics et par le Parlement. Et dernière grosse opportunité, ouverture de ces opportunités, ce sont bien sûr les ordonnances travail et la loi Pénicaud. Ils peuvent décider, ils ont un champ de décision énorme,
de
colossal. Oui, et de décision par les normes, de négociation, puis de décision par les normes, par les accords collectifs, au niveau national, au niveau des branches, au niveau des entreprises. Ils ont un espace décisionnel énorme qui leur a été ouvert, et s'en saisissent très peu comparé à d'autres pays, voire parfois, ils refusent de s'en emparer, alors même que les salariés pourraient le demander, les entreprises pourraient le demander.
Quand on vous pose la question, Gilles Berset, ou du moins quand on vous lit et quand on vous demande à qui la faute, c'est, selon vous, celle des partenaires sociaux, vous venez de le dire, en creux. Je voudrais vous faire entendre la voix de Dominique Carlac. Elle est chef d'entreprise, elle était l'invitée la semaine dernière de Questions du Soir, et donnait son point de vue, justement, sur les dysfonctionnements de la démocratie sociale à la française.
En fait, le dialogue social, il se joue à trois niveaux. Mm-hmm. Il se joue d'abord dans les entreprises, c'est-à-dire que les salariés qui discutent avec la direction. Il se joue entre ce qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire les 5 organisations syndicales et les 3 organisations patronales. Et troisième niveau, il se joue entre ces 8 partenaires sociaux et les représentants de l'État. Là où ça a un peu à choper et patiner depuis quelques années, c'est ce troisième niveau. Et vous savez pourquoi c'est compliqué ? Parce que dès lors que vous avez une lettre de cadrage, ce qu'on appelle une lettre de cadrage en disant « Messieurs les partenaires sociaux et mesdames les partenaires sociaux, on aimerait que vous discutiez sur tel ou tel sujet technique, retraite, chômage, etc. » On reçoit des lettres de cadrage tellement serrées que très rapidement, tous les partenaires sociaux mettent leur ligne rouge, ce qu'on appelle dans le langage des partenaires sociaux, leur ligne rouge, en disant « ça on veut pas, ça on veut pas, ça on veut pas ». Quand on discute entre nous, entre les 8 avec notre agenda autonome, ça produit des résultats.
France Culture, question du soir, Quentin l'a fait.
Bon, Gilles Berset, elle connaît bien le sujet. Dominique Carlac, elle était par ailleurs vice-présidente du MEDEF. Elle dit ce n'est pas du tout la faute des partenaires sociaux, c'est la faute de l'État. Alors, je vous laisse trancher.
Bah, vous me permettrez de penser qu'elle a une position qui est la position d'une partie prenante. Donc pas une position externe qui pourrait prétendre à une quelconque objectivité en la matière. Moi, vous savez, je peux vous donner énormément d'exemples. Il y en a d'ailleurs beaucoup dans ce livre. Je vais vous en donner 3 au niveau national. Le 14 novembre 2024, les partenaires sociaux, les syndicats et 5 organisations syndicales et 3 organisations patronales représentatives au niveau national ont négocié et ont signé, pour certaines d'entre elles, pas la CGT par exemple, 3 accords nationaux interprofessionnels. Lisez-les.
L'ANI, comme on dit.
Les ANI, comme vous dites. Premier accord sur le dialogue social. Un seul article de contenu ont fait disparaître la limite du nombre de mandats des élus. Vous voyez, il n'y a rien d'autre à décider entre patronat et syndicat pour améliorer la qualité du dialogue social. Du côté de l'emploi des travailleurs expérimentés, donc l'emploi des seniors, second ANI qui a été signé le même jour, 3 articles de contenu. Le premier, on va rajouter un item aux obligations de la négociation obligatoire. Vous croyez que ça va changer beaucoup de choses, ça ? Deuxième, articles de contenu, on va renforcer les entretiens de mi-carrière et de fin de carrière. Vous croyez que ça va changer beaucoup de choses? Et puis, troisième article de contenu, qui, pour faire plaisir au MEDEF, on valide, on instaure le contrat senior auquel tenait le MEDEF avec un avantage fiscal. C'est tout. Aucun mot, rien sur l'offre de travail. Aucun mot sur la filière senior dans l'indemnisation du chômage, qui dissuade en France particulièrement les seniors de rester en activité et qui est sans équivalent dans tous les autres pays de l'OCDE. Aucun mot sur l'âge de départ à la retraite, bien évidemment. Aucun mot sur les conditions de la rupture conventionnelle qui très souvent permettent, quand des salariés sont âgés, de préparer une sortie avec une indemnisation qui bénéficie d'un traitement fiscal particulier, avantageux. Il n'y avait rien d'autre à discuter. Voilà l'expression directe, spontanée, des partenaires sociaux. Je pourrais aussi évoquer le troisième, ça prendrait beaucoup de temps, sur l'indemnisation chômage.
Oui, je vous d'abord parce qu'on va revenir évidemment, Gilles Berset, sur les retraites, c'est un sujet à part entière dans ce domaine. Je reviens un instant d'abord sur la relation entre les organisations syndicales et l'État. Lorsqu'on tend l'oreille justement, lorsqu'on écoute ces organisations syndicales, elles expliquent par ailleurs que l'État leur donne très peu de grain à moudre, que ces négociations souvent sont vidées de leur substance, sont aussi vidées de leur sens, c'est-à-dire qu'au fond, l'État ne leur permet pas de négocier concrètement des choses qui ont à voir avec le marché du travail, la vie au travail, les conditions de travail, et que par ailleurs, l'État décide énormément seul, par avance, ce qui sera ensuite traduit dans la loi.
Mais l'État leur laisse une place immense dont ils ne se saisissent pas. Je vais vous donner un exemple concret qui est assez récent, il date d'août dernier. Le Premier ministre, François Bayrou, évoque le fait qu'il voudrait donner aux salariés la possibilité de monnayer leur cinquième semaine de congés payés. Vous voyez, dans certains cas, ça peut être souhaité par des salariés qui connaissent des contraintes financières. Mmh. Ça peut être aussi souhaité par les entreprises qui peuvent être à la recherche de main-d'œuvre. Donc ça peut être, dans certains cas, gagnant-gagnant. On aurait pu s'attendre à ce que les syndicats disent « Bien sûr, mais à condition que ce soit encadré par un accord collectif » de branche ou d'entreprise, pour éviter que le salarié se retrouve dans un face-à-face avec son employeur, qui lui dise « Marcel, bien sûr, tu vas monnayer ta cinquième semaine de congé payé dans telle et telle condition ». Non, ça a été un refus. Un refus immédiat, complet, et c'est même à ce moment qu'a été employée l'expression « musée des horreurs ». Vous voyez, il y avait la possibilité, de façon encadrée, protégée pour les salariés, de trouver des compromis, de construire des possibilités de compromis gagnant-gagnant, salariés, entreprises. Les salariés, les syndicats n'ont pas voulu s'en saisir. Je vais vous donner un autre exemple. Excusez-moi.
Non, c'est moi qui m'excuse. Je voulais qu'on parle des retraites, malheureusement, car le temps tourne. Les retraites, c'est un point là aussi fondamental. Est-ce la faute des organisations syndicales si elles n'ont pas pu négocier ce qu'elles auraient souhaité discuter? Prenons 2023. On parlera du conclave dans un second temps. Prenons 2023. Est-ce que là aussi, la mobilisation syndicale est marquée, une intersyndicale voit le jour, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Est-ce que l'État a pu permettre justement qu'une discussion féconde puisse voir le jour, selon vous?
Alors, la discussion féconde pouvait s'être étendue sur les années précédentes. Regardons un petit peu au-dessus de la petite palissade de la Maison France pour voir ce qui se passe à l'étranger. On voit que l'allongement de l'âge de départ à la retraite jusqu'à 67 ans est quasiment universel autour de nous. Et transpartisan, existe aussi bien dans l'Italie de Giorgia Meloni que dans l'Espagne de Pedro Sanchez, sans parler des pays nordiques scandinaves, de l'Allemagne et des Pays-Bas. C'est quelque chose qui existe partout et qui n'est pas rejeté par les forces politiques de droite ou de gauche, qui leur semble même complètement normal. Regardons maintenant du côté syndical dans ces pays. Est-ce qu'il y a un syndicat d'une importance forte dans le pays qui demande un retour en arrière? Non? Est-ce que vous entendez la FNV néerlandaise, la CGIL italienne qui disent non, il faut renoncer aux 67 ans. Il faut revenir à des âges beaucoup plus précoces pour le départ à la retraite. Non? Ces syndicats ont totalement intégré la contrainte démographique qui existe dans tous ces pays et qui existe en France.
Mais
et la contrainte de finances publiques qui existe en France.
Je suis d'accord avec ce constat. Je notais simplement que j'évoquais la question de la méthode. Vous me parlez de mesures. Encore une fois, sur la méthode, puisque vous dirigez, je le précise, hein, le Conseil d'orientation des retraites. Sur la méthode, encore une fois, comment expliquer que l'État ne se soit pas retrouvé dans un dialogue avec ses organisations syndicales en 2023 sur la retraite. Est-ce la faute des organisations syndicales ?
Je vais donner un avis totalement personnel qui n'engage aucune autre...
Qui exclut le corps, on le précise.
Absolument, qui exclut le corps, qui n'est que mon avis. Regardons comment se passent les choses dans un pays qui est notre principal partenaire économique. Quand une négociation se porte sur une réforme, qui est une réforme nationale, qui sera discutée et votée au Parlement, les syndicats n'ont pas le droit d'appeler à un arrêt du travail. Les syndicats n'ont pas le droit de mobiliser les travailleurs. Et s'ils le font, ils s'exposeraient à devoir payer des dommages et intérêts. Dire, la discussion est une discussion de parlementaires, d'élus de la République, avec, à la fin, des votes ou éventuellement une censure. Que les pouvoirs publics prennent le pouls des partenaires sociaux, des syndicats, comme des représentants patronaux, c'est tout à fait logique, légitime. Ça n'est pas leur espace décisionnel. L'espace décisionnel revient de plein droit aux élus de la République, aux députés que vous et moi élisons au Parlement. C'est là que doit se prendre la décision pour une réforme comme celle-là, qui touche d'ailleurs des dimensions budgétaires. Le budget peut pas se déléguer aux partenaires sociaux, bien évidemment. C'est quelque chose qui doit se décider sur un plan totalement démocratique par l'Assemblée nationale.
Vous estimez par ailleurs que les syndicats, les organisations syndicales se positionnent très souvent comme des partis politiques. Qu'est-ce qui les rapproche, j'allais dire, dans la nature, selon vous, de leur intervention ?
Écoutez, nous, vous voyez, quand on constate, mes co-auteurs et moi, que la démocratie sociale est à la peine en France. Évidemment, ensuite, on a analysé le pourquoi de la chose. Pourquoi elle est à la peine ? C'est pas la faute des syndicats, c'est pas la faute des institutions patronales. C'est la faute de nos institutions de la démocratie sociale. Nos institutions de la démocratie sociale créent ce type de comportement et aboutissent à un mauvais fonctionnement de la démocratie sociale. Pourquoi ? Nous sommes le pays qui a le plus de syndicats, alors que nous sommes l'un des pays qui a le moins de syndiqués. Chercher l'erreur, ça aboutit évidemment à des positions contestataires, des positions d'opposition, des surenchères, qui dénaturent complètement le débat et la recherche de compromis gagnant. Les syndicats, par ailleurs, du fait des institutions, n'ont pas nécessairement à rechercher des adhérents, des syndiqués, l'approbation du personnel. Nous donnons un exemple très simple dans cet ouvrage. Imaginez une entreprise de 10 000 personnes. Si au premier tour des élections professionnelles, premier tour auquel seuls les syndicats peuvent présenter des candidats. Ils ont le monopole de candidature. Eh bien, c'est uniquement sur ce premier tour qu'on calcule l'audience. Si à ce premier tour, il n'y a que 10 votants dans notre entreprise de 10 000 personnes, c'est sur ces 10 votants qu'on va calculer l'audience. Et si un syndicat a 6 voix sur 10 votants dans notre entreprise de 10 000 personnes, il sera considéré comme majoritaire. Il pourra représenter le collectif de travail dans des négociations. Il pourra engager le collectif de travail en signant des accords collectifs, y compris des accords collectifs du type APC qui réduisent les salaires. Vous croyez que ça pousse à représenter réellement les salariés, l'intérêt des salariés et à chercher des adhérents? C'est exactement l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du refus d'assurer une protection à des salariés qui, dans une négociation dans une entreprise, pourraient vouloir monnayer leur 5e semaine de congé payé. Il aurait fallu que les syndicats se mobilisent en protégeant les salariés qui veulent effectivement monnayer leur 5e semaine de congé payé.
Une autre chose que vous pointez, que vous écrivez, Gilles Berset, co-écrivez, une démocratie sociale adulte est une démocratie sociale capable de produire des accords imparfaits mais assumés et de s'y tenir. Fin de citation. De s'y tenir, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que...
On ne s'y tient pas toujours ?
Un compromis, comme on le sait, chacun il gagne un peu, mais chacun y perd aussi un peu. C'est-à-dire personne n'est complètement gagnant. Et ça veut dire qu'il faut accepter une logique de compromis dans une démocratie sociale active, forte, en se disant, eh bien, même si j'ai pas tout gagné, je vais devoir, devant mes mandants, dire, j'ai dû perdre, reculer sur tel point, mais on a gagné sur tel autre point qui me paraissait prioritaire. Oui, je crois que les compromis en France sont assez difficiles à construire, compromis gagnant-gagnant, et à garder.
Merci beaucoup Gilles Berset et je redonne le titre de l'ouvrage que vous co-signez avec Guy Groux et Richard Robert, Sauver la démocratie sociale du conflit au contrat, c'est chez Calman Lévy. Et merci également à celles et ceux qui ont imaginé cette émission à mes côtés, Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon, à la réalisation, Léa Racine.